reçoit donc ce soir Julien Gartner. Julien Gartner qui est historien en histoire contemporaine.
C'est ça.
Voilà. Et donc pour ta thèse, tu as travaillé sur plein de films du cinéma français. De
70 à aujourd'hui, en faisant un regard sur le cinéma colonial aussi, qui avait été un travail précédent. Donc ma thèse, elle va de 70 à 2010, à aujourd'hui, et j'ai recensé 673 longs-métrages de fiction de capitaux majoritairement français pour cette étude. Voilà, donc je me base sur un grand nombre de films, et parmi ces 600 et quelques films, j'en ai vu 433, ce qui représente aussi une marge assez confortable, où voilà, ça me donnait un regard assez global sur ce sujet, ouais.
Et ceux que tu n'as pas vus, tu as lu des commentaires
ou... Ceux que je n'ai pas vus, je les ai quand même étudiés à travers leur réception critique, dans la presse, les chiffres des entrées en salle, etc. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur ma méthode.
D'accord. Et donc, alors, tu parles de... donc, ce qui t'a intéressé dans ces films-là, à décortiquer, c'est la figure de l'arabe.
Et de l'arabe avec des guillemets, effectivement, mais l'arabe en tant que stéréotype. J'ai voulu rentrer dans mon étude par la porte du stéréotype. À mon avis, l'arabe, ce mot, c'est... un mot que le cinéma a contribué à vulgariser, mais c'est un mot qui correspond aussi à une dialectique de l'histoire. C'est un mot qui remonte avant aux Sarrasins, aux Maures, aux Mahométans, et puis finalement cette figure est devenue l'arabe pour nous, et pas vraiment le maghrébin. En fait, les films français ne parlent jamais vraiment du maghrébin. Il ne fait pas vraiment de différence géographique entre un Marocain et un Saoudien, entre un Yéménite et un Algérien. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de choisir le terme « arabe » parce qu'il correspondait au discours des films français. Je peux rappeler, par exemple, tout bêtement, un film de Pierre Richard de 91 avec Smaïn, « On peut toujours rêver ». Beau succès en salle, hein, et souvent rediffusé à la télévision, même si c'est un film qu'on peut juger esthétiquement médiocre, même si ce n'est pas mon rôle d'historien de juger les films. Pourtant, dans ce film-là, en une minute, c'est un film notamment avec Pierre Palmade, donc une scène de petit déjeuner avec Pierre Palmade, Pierre Richard, etc., en une minute, on entend 8 fois le mot « arabe » à des fins comiques. Voilà aussi pourquoi ce terme-là me paraît particulièrement important. On n'utilise jamais le terme de maghrébin, mais toujours celui d'arabe.
D'accord. Mais donc, tu viens d'évoquer qu'effectivement, ça, on peut faire remonter cette figure-là. Enfin, en tout cas, les stéréotypes qui sont attachés à cette figure-là, on peut les faire remonter assez loin dans le temps. En fait.
Assez loin, parce qu'en tant qu'historien, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le temps long, et notamment l'école des annales, hein, Marc Bloch, Lucien Febvre, tous ces historiens qui ont questionné leur sujet sur un temps long, c'est-à-dire qu'il fallait un regard en arrière. Je me suis demandé d'où venait cette figure de l'arabe dans le cinéma français, si elle avait un passé, comment elle s'était construite. Effectivement, en tirant le long fil de cette représentation, je suis passé par le cinéma colonial, par les peintres orientalistes, par la littérature de voyage, Chateaubriand, de Nerval, pour tous ces gens-là, Victor Hugo, pour tous ces gens-là, le voyage en Orient, même imaginaire, était devenu un passage obligé dans leur carrière littéraire. Et puis on tirait encore un peu le fil, on arrivait aux représentations médiévales du Sarrasin, du Maure, du Mahométan. Je peux citer la chanson de geste médiévale, qui est un peu le prédécesseur du théâtre. Hein, la chanson de geste la plus connue, c'est la chanson de Roland, dans laquelle on met déjà en scène des Sarrasins.
Et alors, qu'est-ce qui représente justement le stéréotype du Sarrasin? Il est comment?
Alors, à l'époque, c'est un espèce de monstre. Le Sarrasin, c'est aussi le nom qu'on donne au blé noir. Donc, il a cette figure de noir, de monstre, de diable, puisque l'arabe, qui n'est pas encore l'arabe, certes, mais il agit déjà comme une espèce d'altérité radicale. C'est un autre opposé, surtout avec... la christianisation de l'Europe, ou en tout cas de l'Occident, l'islam va être perçu comme une religion fausse, comme une religion guerrière, et donc comme une religion complètement antinomique au christianisme. Il y a donc vraiment cette opposition qui va se créer là entre l'arabe, entre le musulman et le chrétien, on va dire, pour schématiser les choses, même si parfois on peut mesurer des rapprochements aussi. Hein. Il ne faut pas tout penser en termes d'opposition. Mais néanmoins, c'est cette altérité radicale qui est l'idée essentielle qu'on doit retenir.
Mais alors, ça veut dire qu'on est toujours dans la filiation de ce christianisme, enfin du rapport entre christianisme et islam, et qui remonte au temps médiéval. On est toujours là-dedans?
J'aurais du mal à répondre à cette question, mais je pense que... on trouve des indices qui peuvent nous le faire penser néanmoins, parce que c'est vrai que l'islam qu'on a découvert en Europe avec un siècle de décalage, hein, et qu'on a découvert surtout à travers une invasion, donc c'était un choc guerrier, la première rencontre entre le christianisme et l'islam, c'est un choc guerrier qui a marqué les imaginaires. Et donc, effectivement, on conçoit toujours l'islam comme une religion guerrière. On y associe aujourd'hui le terrorisme. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le voir, à voir l'islam comme une religion pacifique. Néanmoins, le cinéma français montre des exemples plus récents qui peuvent nous montrer autre chose, notamment dans Indigène. Avant de libérer la France, avant la bataille de Monte Cassino, on voit des soldats maghrébins faire leurs ablutions et réciter leurs prières avant de partir au combat. Donc un islam qui participe à la libération de la France aussi.
Mais finalement, là, tu emploies le mot islam. Donc, est-ce que la figure de l'arabe dans le cinéma français, qu'on soit dans les années 70 ou à aujourd'hui, est associée à la pratique de l'islam ?
Justement, non. Justement, un des traits marquants de ma recherche, c'est l'absence, le grand absent parmi les sujets que j'ai traités, c'est celui de l'islam. On trouve le sujet de la beurette, le sujet du délinquant, le sujet après du contre-stéréotype, on en parlera tout à l'heure. Mais le sujet de l'islam est grandement absent, hormis dans quelques films comme L'Union sacrée, par exemple, le film d'Alexandre Arcadie, à la fin des années 80. Donc l'islam est relativement absent, j'ai cherché à comprendre pourquoi, et j'ai trouvé quelques éléments de réponse dans le cinéma colonial, où on présentait le Maghreb comme une espèce d'espace vierge à conquérir, espace vierge parce qu'il n'y avait pas d'habitants, en tout cas c'est ce que nous montrait le cinéma, pas ou peu d'habitants, et surtout il n'y avait pas de religion.
C'est l'image qu'on voulait faire croire en tout cas.
C'est l'image qu'on voulait faire croire, je citerai un film qui s'appelle L'Appel du silence, où on parle de la vie du père Charles de Foucault, dans laquelle on montre voilà, l'absence de religion sur cette terre, donc une terre qu'on peut christianiser.
Et pour autant, avant, enfin, si on remonte dans le temps, tu montrais qu'il y avait vraiment un lien avec, en lien avec le christianisme. Donc, est-ce qu'il y a une coupure à un moment donné ? Est-ce qu'à un moment donné, on va voir la figure de l'arabe comme n'étant plus en lien avec l'islam ?
Peut-être qu'on peut... Oui, on peut voir cette coupure, à mon avis, quand il devient travailleur immigré. Peut-être qu'on tombe là dans une question plus sociale, plus misérabiliste. Et c'est vrai qu'avec un film comme Angélique et le Sultan... Donc le sultan est clairement assimilé ici à l'islam, on est en 1968, c'est le dernier film de la saga Angélique Marquise des Anges. Dans ce film-là, on a encore un islam montré comme une religion moyenâgeuse, avec des mœurs particulièrement terribles. Là, on fouette, on viole, on tue, donc l'islam est associé à tout cela. Et après ce film-là, effectivement, c'est un sujet qui va disparaître peu à peu du cinéma français pour passer à d'autres thématiques, et des thématiques plus sociales.
Bon, on va y revenir, mais avant de... on va peut-être faire un détour par le cinéma colonial, mais avant d'en venir là, j'aimerais savoir un petit peu comment tu as travaillé, qu'est-ce que c'est le travail d'un historien sur des films, en fait ?
Alors, le travail d'un historien sur des films, c'est... l'historien n'est pas formé au jugement esthétique, donc je ne me suis pas penché sur la qualité plastique des œuvres. Je me suis penché... sur leur réception critique. Alors, je me suis intéressé à des sources annexes comme la presse spécialisée, la presse généraliste. Je me suis aussi intéressé aux prix, aux récompenses artistiques que les cinéastes, que les acteurs français d'origine maghrébine ou maghrébins ou arabes, toujours entre guillemets, ont pu recevoir. C'était un indicateur précieux. Je me suis intéressé aux entrées en salle. J'ai donc construit autour des films tout un environnement. J'ai replacé ces films aussi, évidemment, dans leur contexte, on va dire, socio-historique. Avec les événements, on en parlera, hein. Souvent les films collent avec l'actualité. Et puis, j'ai aussi catégorisé, on va dire, les films. C'est-à-dire que j'ai quantifié ce que je trouvais dans ces 600 et quelques longs-métrages. Qu'est-ce que j'ai quantifié ? J'ai quantifié donc les entrées en salle, je vous l'ai dit. J'ai quantifié les rôles que j'ai rencontrés. Donc, combien de rôles ? Combien de délinquants je retrouvais à telle époque ? Combien de policiers je retrouvais à telle époque ? J'ai quantifié la place dans la distribution, combien j'avais de figurants, combien j'avais de second rôle, combien j'avais de premier rôle. J'ai quantifié le genre des films. Est-ce que j'avais affaire à des comédies ? Est-ce que j'avais affaire à des drames ? Est-ce que j'avais affaire à des films policiers ? Et tout ça, replacé dans un contexte historique, ça commençait à faire sens. J'ai entrecroisé toutes ces sources, réception, entrée en salle, prix et récompense, et on va dire quantification de mes sources. Méthode peut-être la plus importante, repérer des scénarios récurrents. Pourquoi on retrouve les mêmes histoires, les mêmes scénarios à un même moment de l'histoire ? Ça, c'était vraiment un des phénomènes majeurs qui m'a permis d'avancer, de construire chronologiquement mon étude.
Vu à vol d'oiseau, le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens. Des ruelles qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et puants. Des porches suintants, envahis de vermine et d'humidité. Des cafés obscurs, bondés à toute heure. Des rues désertes habitent le silence, des rues aux noms étranges. Ils sont 40 000 là où il ne devrait être que 10 000. 40 000 venus de partout. Ceux d'avant la conquête, ceux du passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionnalistes, et pour nous, mystérieux. Les Kabyles, les Chinois, les Gitanes, les Aémathlos, les Slaves, les Maltais, les Nègres, les Siciliens, les Espagnols, et des filles de tous les pays, de tous les formats, des grandes, des grosses, des petites, des sans âge, les sans forme, abîme de graisse où nul n'ose se risquer. Les maisons, qui comportent des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l'Européen y est cependant toléré. Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent ainsi jusqu'à la mer. Colorées, vivantes, multiples, hurlantes, il n'y a pas une casbah, il y en a 100. Il y en a 1000.
Voilà, ça c'était un extrait, c'est dans le tout début du film Pépé le Moko. Pépé le Moko, un film de Julien Duvivier qui date de 1935. C'est et qui ça. Je sais pas, est-ce qu'on peut considérer que c'est un des archétypes du cinéma colonial ?
Alors, c'est pas vraiment un archétype, c'en est un chef-d'œuvre, c'est sûr. C'est quand même un grand film, malgré tous les stéréotypes qu'il peut charrier. Hein, c'est quand même un excellent film, Pépé le Moko. Non, il y a eu des films qui ont cristallisé bien davantage des stéréotypes à l'égard de ceux qu'on appelait les indigènes. Je pense à un film comme Sarat-il terrible, où on a un acteur algérien. Ce qui est très rare hein, dans le cinéma colonial, puisque dans Pépé le Moko, le rôle de Slimane est incarné par Luc Agridoux, donc un acteur français. Ça, c'était ce qui était fréquent. Hein, quand un acteur censé être arabe dans le film était un second rôle, par exemple, il fallait le faire incarner par un acteur français. Donc voilà, dans Sarat-il terrible, on a un acteur maghrébin auquel on met une coiffure assez bizarre. Il a comme des cornes, donc il est clairement identifié à une espèce de diablotin, et puis on le sent toujours suintant, un petit peu libidineux, etc. Donc voilà, Pépé le Moko, c'est pas vraiment le film dans lequel on peut déceler le plus de stéréotypes, malgré ce début de film particulièrement frappant.
Oui, mais aussi malgré le fait que, enfin, bon, tu le dis, c'est assez frappant aussi dans le jeu même des acteurs qui imitent les Arabes. Enfin, en l'occurrence, oui. En l'occurrence, le personnage de Slimane dans Pépé le Moko, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Enfin, on a l'impression qu'ils sont déjà, ils sont maquillés pour être plus basanés. Il y a une gestuelle qui est un peu.
Il y a une gestuelle qui est souvent efféminée.
Ouais.
Une gestuelle efféminée qui va avec l'absence de virilité qu'on prête aux guerriers maghrébins dans le cinéma colonial. C'est souvent quelqu'un qui agit en traître, qui est fourbe, qui utilise la tactique de la guérilla pour combattre l'armée française, qui elle au contraire est faite de vaillants légionnaires. Voilà un peu de ça. Ça c'est un des vrais stéréotypes. Effectivement, il y a là déjà une féminisation du personnage maghrébin. Hein. On lui retire les attributs, on lui retire sa masculinité. On a une scène très intéressante dans Pépé le Moko quand Pépé, donc Jean Gabin, dit à Slimane, Luc Agridoux, lui dit « T'as mis ton rimmel aujourd'hui, ça te fait les yeux coquins ». Donc on a déjà une espèce d'attirance hein, là, entre les deux personnages. Une espèce d'attirance, une espèce de crainte de l'attirance entre Français et Maghrébins. Et il y a presque un jeu quasi sexuel qui s'opère entre la France et le Maghreb parce qu'on sait que l'histoire des colonies, c'est peut-être aussi une histoire d'amour inachevé. Et ça, le cinéma français va énormément le marquer. Au début, le Maghreb était représenté, on peut prendre l'exemple de l'Atlantide, de Jacques Feder en 1921, qui est une super production pour l'époque. Et dans ce film-là, le Maghreb est clairement assimilé à un territoire, un espace vierge à conquérir. Alors évidemment, la métaphore de la femme, là-dedans, est incarnée par Antinéa, qui règne sur l'Atlantide, puisque l'Atlantide, ici, donc le mythe platonicien, est transposé dans le désert du Hogar, dans le film de Jacques Feder. Donc voilà, on a toute cette relation assez troublante aussi, qu'on va retrouver beaucoup plus tard, peut-être 30 ans après, au milieu des années 50. Je citerai un film de René Clair, Les Belles de Nuit, avec Gérard Philippe. Gina Lollobrigida ou Gérard Philippe, qui est un soldat français, va conquérir l'Algérie et va séduire Gina Lollobrigida, qui a essayé de le poignarder, mais qui finalement va succomber au charme du militaire français. Donc voilà, le Maghreb, femme à conquérir pour le soldat français.
Ouais, donc ça, mais quelles sont les principales figures justement qui émergent du cinéma colonial pour voir est-ce qu'elles restent ensuite dans les films que tu as étudiés?
Alors, dans le cinéma colonial, ce qu'on remarque, donc il y a cette féminisation, c'est une très bonne question, parce que cette féminisation, elle correspond déjà à la féminisation, ou en tout cas au caractère homosexuel qu'on prêtait aux Sarrasins. Pendant les invasions, les traités de sodomie, qui violaient des prêtres notamment. Alors on retrouve des textes, je renvoie un auteur, un médiéviste qui s'appelle Norman Daniel, qui a écrit là-dessus un ouvrage excellent. Et donc pour lui, il y a clairement aujourd'hui une survivance des stéréotypes médiévaux. Hein, on retrouve cette image de l'homosexuel maghrébin, Chouchou, 4 millions d'entrées en 2003. Mais autour de Chouchou, il y a une dizaine de films au scénario similaire. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a une récurrence de cette image de l'homosexuel. Alors, quelles sont les autres caractéristiques? En fait, la caractéristique majeure de l'indigène dans le cinéma colonial, c'est sa fonction de décor. C'est un personnage ornemental, comme un cactus, comme un chameau, comme un palmier.
Comme une femme. Encore une fois.
Comme une femme. Et donc, on peut dire que le maghrébin, c'est cette espèce, il correspond à cet exotisme de pacotille qu'on retrouve dans le cinéma colonial.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs peut-être qu'on s'intéresse plus au lieu que par exemple au rite de l'islam. C'est-à-dire que ça va faire une touche un petit peu exotique également.
Effectivement, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque, pardon. Ce procédé, il subsiste jusqu'à aujourd'hui. Je citerai un film qui s'appelle Is No Good, un très mauvais film, enfin une très mauvaise comédie. Je me permets de faire un peu de jugement personnel, ce que je ne fais pas dans ma thèse, je vous rassure.
Non, mais on a le droit, on est à la radio.
Alors je vais y aller, je vais monter en puissance. Donc un mauvais film, mais dans lequel on a un véritable décor de carton-pâte, dans lequel on n'aperçoit que des minarets. Comme si l'architecture du monde arabe, c'était uniquement le minaret. Je citerai un autre film de Claude Lelouch avec Patricia Cass et Jeremy Irons, And Now, Ladies and Gentlemen, dans lequel, à chaque fois qu'on a une scène d'extérieur, on a un appel du muezzin. Comme si le monde arabe vivait dans un appel du muezzin permanent. Donc, l'islam n'apparaît plus à l'intérieur des intrigues, mais l'islam, comme le maghrébin, devient un élément de décor récurrent.
Mais alors, si c'est un décor, c'est plus tellement un personnage ?
Non, effectivement, pour moi, les films que je viens de citer sont clairement des films qui s'inscrivent dans le schéma colonial. On peut, en ce sens, peut-être les traiter de films post-coloniaux, parce qu'effectivement, ils reprennent clairement les trames, et puis ils reprennent le traitement réservé aux personnages maghrébins. Donc c'est vrai qu'on a une vraie filiation de l'image qui est particulièrement intéressante pour l'historien.
J'ai dans la tête une petite histoire qui raconte comment c'est dans le noir que j'ai fini. Oui, dans la tête une drôle d'histoire qui finit mal, mais je l'ai pas voulu. Car ici comme là-bas c'est la lue, le dernier qui arrive a pas de salut mais il s'allie. Et c'est à peine entré dans le bercail que la foule s'écrie faut qu'il s'en aille. Oui, c'est à peine entré dans la maison que j'entends les sirènes à l'horizon. Il faut partir, y a déjà tellement pas d'air, et on s'étonne que je m'en sois pris au lampadaire. Alors pour me consoler je me dis c'est par ma mère que je suis des deux côtés de la mer. C'est pas du pipeau, pas ma faute si des deux côtés on est aussi amer. Sur les murs du bled y'avait la fatwa, sur ceux de ma cité y'avait marqué rentre chez toi. Sur les deux rives jamais il ne reste la phrase qui te dit reste. On a casqué, c'était pas de la tarte d'entendre mes séquents qui partent. On a casqué, on a fini KO en criant y'a personne là-haut. Il faut partir, y'a déjà tellement pas d'air, et on s'étonne que je reste près des lampadaires. Alors pour me consoler je me dis c'est par ma mère que je suis des deux côtés de la mer. C'est pas du pipeau, pas ma faute si des deux côtés on est aussi. Du coup je reste allongé sur le quai Je vois partir des hommes et revenir des perroquets qui répètent là-bas dans les ruelles. Il y a des fleurs qui résistent à la Noël. Pourtant on est sans quand on est dessous. On est ici que quand on a des sous. J'ai compris qu'on n'avait pas pour le cœur la trouvaille à Pasteur. Il faut partir, partir, y a déjà tellement pas d'air. Mais dans ma rue y a plus de lampadaires. Alors pour me consoler je me dis, c'est par ma mère que je suis. Des deux côtés de la mer, c'est pas du tout faux, pas ma faute si. Des deux côtés on est aussi.
Vous êtes bien dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on est en compagnie de Julien Gartner, historien, et qui a travaillé donc sur la figure de l'arabe avec des guillemets, on va être obligé de le dire à chaque fois parce qu'on n'a pas l'image à la radio, dans le cinéma français de 70 à nos jours. Ouais. Mais on a débordé un peu en avant et on a parlé du cinéma colonial. Et en fait, toi, plus ou moins, tu clôt cette période donc en 68.
Oui, je clôt cette période en août 68 avec un film qui s'appelle Angélique et le Sultan de Bernard Borderie. Alors, beaucoup d'entre vous l'avez vu parce que ce film a été rediffusé une cinquantaine de fois à la télévision depuis. Il avait réuni 1 700 000 personnes dans les salles à cette époque-là. Ce n'était pas un chiffre énorme hein, pour la série des Angéliques. C'était même le plus petit succès de cette série-là. Mais néanmoins, c'est un film qui nous parle parce que c'est un film qui intervient 6 années après la fin de la guerre d'Algérie. Mais c'est un film qui porte encore clairement les traces du colonialisme, bien qu'il fasse de la Méditerranée un espace d'opposition. C'est plus un espace de lien. Là, la Méditerranée, c'est un véritable espace d'opposition. Et puis, en 68, il faut bien dire que ce film-là, il est en décalage avec l'esprit du temps. En mai 68, le cinéma français commence à s'intéresser à ce qu'on appelle les oubliés de la société de consommation. Parce que dans les manifestations de mai 68, il y a un véritable rapprochement entre les manifestants et les travailleurs immigrés. On prend conscience qu'à côté de nous, y a des travailleurs immigrés qui partagent la même condition que nous, qui sont donc ces oubliés de la société, et les caméras vont peu à peu se tourner vers eux. Donc on a un véritable changement. Le cycle du cinéma colonial semble s'achever. Et d'autre part, un cinéma de gauche, alors évidemment Élise ou la vraie vie, qui sort en 70, de Michel Drac, qui est présenté au Festival de Cannes en 69, que le journal Le Figaro juge comme un film francophobe, il faut le rappeler. Donc en 68, on a Michel Drac qui sort ce film-là, et donc l'immigré va commencer, le personnage du travailleur immigré va commencer à émerger dans le paysage cinématographique français, d'autant plus que dans la société française, on prend conscience de la présence de ce travailleur avec un événement qui cristallise cela, l'incendie d'un foyer de travailleurs immigrés à Aubervilliers le 1er janvier 1970, qui fait 5 morts, je crois, et cet événement va véritablement... faire débuter la prise de conscience pour l'opinion publique française de la présence des immigrés avec toute cette vague de fiction de gauche qui, elle, va peu à peu le mettre en scène.
Mais pour comprendre justement peut-être ce passage, juste Angélique et le Sultan, en quoi ça peut être en décalage par rapport à 68? En quoi ce film est encore peut-être en décalage? Alors, peut marquer une césure?
D'une part, il intervient 6 années après la fin de la guerre d'Algérie. Donc, pourquoi... On sent que l'imaginaire, lui, n'est pas complètement décolonisé.
Parce qu'il est comment? Parce que peut-être que tout le monde n'a pas en tête le film, peut-être en deux mots.
merci de me détourner, de me faire revenir vers ce film, parce que, exemple frappant, tous les personnages arabes dans ce film sont barbus. Le seul personnage arabe interprété par un acteur français, en l'occurrence Jean-Claude Pascal, est féminisé, imberbe et sympathique. Donc son absence de pilosité symbolise sa sympathie. Voilà un peu ce qu'on peut dire. On sent donc que les imaginaires ne sont pas complètement décolonisés, mais néanmoins, l'insuccès du film peut nous faire penser que là, on a quand même un cycle qui s'achève. Ali Baba et les 40 voleurs, c'était le milieu des années 50. Ensuite, évidemment, avec la guerre d'Algérie, on a été moins tourné dans les colonies. Il y a moins de films coloniaux. Et 68, il y a cette résurgence soudaine avec ce film Angélique et le Sultan. Mais malgré tout, voilà, ce film, il clôt la fin d'un cycle tel que je le conçois, surtout qu'après, on voit ces fictions de gauche qui arrivent en force et puis le cinéma français qui se politise.
Et bah, on va entendre, avant d'aller plus loin, un extrait de Dupont La Joie.
Le moucheux, avec ou sans mousse, les deux, attention, hein, la moustache,
comme auraient dit les trois mousses, que
faut en faire attention, non, ça va pas la tête, non mais ça va pas la tête,
l'on peut tuer,
alors on se prend tout permis maintenant, c'est toi qui vas le payer le pantalon, non,
c'est pas ma faute, bon.
tu t'excuses,
c'est la danse.
Non mais si on les laissait faire, mon vieux, ils nous marchaient sur la gueule, les bicots.
C'est la danse.
Tu fous le camp, je t'accompagne, et coup de pompe dans le cul.
Excuse-moi, monsieur, s'il vous plaît, hein.
Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi elle a dit bicots?
N'aie pas peur.
Alors, elle a dit bicots.
Calmez-vous, allons. Il n'y a pas quelqu'un pour appeler la police? Appelez la police.
C'est fini, non? C'est lui-là, il a dit.
Parfaitement, j'ai dit bico, et alors? Et alors, quoi?
Bon, décidément, si vous n'êtes pas surveillé,
j'ai rien fait.
Fini mal, hein?
J'ai rien fait.
Non, les papiers.
Mais un moment.
Ton domicile.
Essayez donc de savoir ce qui s'est passé avant de l'accuser. Il a rien fait.
Monsieur, nous n'avons pas besoin de vos conseils. Et d'abord, vous avez vos papiers, s'il vous plaît?
Monsieur est un ami. Si vous aviez vu comme il s'est comporté contre les Arabes.
Oui, mais dans ce cas, c'est différent, monsieur. Excusez-moi.
Robert les emmène avec nous.
C'est terminé. Dégagez. C'est rien, on les emmène au baraquement.
Voilà, donc Dupont La Joie, un film de Yves Boisset de 1975.
C'est ça.
Ouais, donc pour toi, enfin là c'est un petit peu justement ce cinéma de gauche qui s'intéresse ici au racisme.
Oui, c'est un cinéma de gauche qui s'intéresse aux faits divers qui se passent dans le sud de la France au 73 avec une série d'incidents contre les immigrés, hein, donc concentrés dans le sud de la France avec des morts, hein, je crois qu'on dénombre 11 morts. À cette période-là, et donc Yves Boisset s'inspire du fait divers pour faire son film, mais le fait divers va le rattraper, puisque selon Boisset, un de ses acteurs est agressé durant le tournage par des agresseurs racistes. Voilà, donc la réalité a rattrapé la fiction chez Boisset. Dupont La Joie, c'est un film intéressant parce que c'est un film qui est un véritable succès commercial, et d'ailleurs c'est un des objectifs de Boisset, hein, d'en faire un succès commercial. C'est une fiction politiquement engagée. Mais c'est une fiction qui s'intéresse donc, qui est une fiction qui se veut antiraciste, mais le débat autour de ce film, dans l'opinion publique française, va dériver autour de la francophobie, là aussi supposée, du film. Et donc on va se désintéresser finalement des personnages maghrébins, que le film au final montre assez peu. Et donc le débat va revenir vers un débat franco-français. Voilà, le Dupont La Joie, c'est un peu la caricature du français moyen, et c'est ce qu'on va reprocher à Yves Boisset dans les journaux. On va lui reprocher de faire un film francophobe, de se moquer du français moyen, et finalement le débat sur le racisme, le débat sur la condition, sur le sort des immigrés dans la société française, va un peu s'effacer. Surtout pour La Joie, il faut aussi marquer la présence de l'acteur Mohamed Zinet, grand acteur algérien, un des fondateurs du Théâtre National d'Alger au milieu des années 60, acteur de théâtre, acteur qui démarre sa carrière au cinéma dans les films immigrés, qui tourne donc dans Dupont La Joie, qui tourne dans un film qui s'appelle Le Bougnoul, qui sort la même année, de Daniel Moussman, donc en 75. Mais c'est un acteur qui termine sa carrière, donc un acteur brillantissime, qu'on comparait à Chaplin, hein, dans les journaux français, un acteur qui a réalisé un film incroyable qui s'appelle Tahia Yadidou, un film de commande de la ville d'Alger. C'est un espèce de film psychédélique qui est un chef-d'œuvre du cinéma algérien, Tahia Yadidou. Et Zinet, comment est-ce qu'il termine sa carrière d'acteur en France? Il termine dans Les Soudoués passent le bac, en jouant Momo, le terroriste à la couscoussière piégée.
C'est triste, hein?
C'est triste. Zinet finira dans un asile et mourra relativement seul en 95. Voilà un peu, parce que tout cela, c'est un exemple très révélateur de la condition réservée aux acteurs d'origine immigrée. On a du mal à concevoir que ces acteurs-là, en France, dans les années 70, puissent être des artistes. Un peu comme le cinéma colonial a relégué les indigènes dans une sous-distribution, dans le générique, on retire plutôt la qualité d'artiste aux acteurs d'origine maghrébine. C'est aussi le cas pour les cinéastes d'origine maghrébine, parce que la période 70, l'année 70 fait sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier film qu'on appellera un film immigré qui sort, un film de Ali Ghanem, qui s'appelle Mektoub. Et donc, Ali Ghanem, c'est un ouvrier, un jeune ouvrier de 26 ans, un autodidacte qui apprend à faire des films tout seul, sur les chantiers, donc qui autoproduit son film. Et Mektoub est particulièrement déconsidéré par la critique. On reproche au cinéaste, dans tous les journaux français, un peu l'inconsistance de son regard, le manque de regard politique, etc. Son incapacité, finalement, à savoir filmer ses acteurs, qui sont d'ailleurs des non-professionnels, qui sera reproché aussi. Donc voilà, il y a toute cette déconsidération artistique. On va voir, au fur et à mesure de notre développement, que ce statut d'artiste refusé va changer. On constate dans le cinéma français contemporain, on y reviendra tout à l'heure probablement.
Et donc dans cette première période qui va donc des années 70, de 1970, ouais. Tu l'arrêtes quand et pourquoi ? Enfin, justement, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette période ?
Cette période, je l'arrête en 1982 par un glissement de genre. Dans les années 70, on est à la fois dans la représentation misérabiliste du travailleur immigré, notamment dans l'ensemble de ces films immigrés, des films immigrés qu'il faut prendre en compte, mais qui sont malgré tout peu vus. Mektoub, c'est 5000 entrées en salle, et le film Immigré le plus vu, c'est Les Ambassadeurs, 20 000 entrées en salle. Donc c'est vraiment des petits films peu vus, mais malgré tout discutés dans les journaux, ce qui les rend intéressants. Alors dans cette période-là, ce qui est aussi particulièrement frappant, et c'est pour ça que mon entrée par le stéréotype de l'arabe fait sens, c'est qu'avec les chocs pétroliers, c'est la figure de l'émir, aux richesses imméritées qui émergent. On va singer les princes de l'or noir, les acteurs français vont se régaler à imiter ces émirs venus du Golfe qui profitent des chocs pétroliers alors que la France, les Français, eux, sont en crise. C'est la crise économique qui frappe les Français et on va afficher à l'écran ces émirs aux richesses imméritées. Film, un exemple, 4h moins le quart avant Jésus-Christ de Jean Yann, dans lequel on voit ces émirs venir non pas discuter pétrole, mais discuter avoine, puisque évidemment on est dans la période antique et qu'on remplace le cours du pétrole par le cours de l'avoine. Et donc ce film, il fait plus de 4 millions d'entrées en France. Et c'est un film dans lequel on voit ces émirs aller acheter des femmes au marché aux esclaves, des belles femmes blondes, aller jouer au casino, à s'accaparer tous les hôtels de la ville. Voilà, donc des émirs un peu vulgaires qui font l'étalage de leurs richesses, surtout qui n'obéissent pas du tout à leurs principes de bons musulmans, évidemment. Et donc on va moquer ces émirs, on va les singer, et puis surtout on va afficher leurs richesses alors que les Français, eux, sont en crise.
Mais justement, pendant la crise pétrolière, on pourrait peut-être entendre un extrait de Pas de problème, justement.
Pas de problème, ouais. Excellent film de Georges Lautner de 74.
C'est à moi que tu dis ça, dis
Doucement, ça va,
hein. Tu m'as le poli, dis. Je vais écrire au syndic, prévenir la police.
Non mais dites donc, pauvre mec, vous croyez pas que vous nous faites déjà assez chier avec votre pétrole, non? Balayeur.
Dis voyou. Raciste. Va donc faire pipi dans ton réservoir pour voir si ça roule.
Oh, c'est malin, ça.
Donc, pas de problème. Alors, donc là, on entend bien que... Alors, pour décrire un peu la scène, c'est un voisin qui monte... c'est Bernard Ménez qui est en face du voisin.
Oui, et c'est Miu Miu qui, par ses cris... le son de ses cris passe par le vide ordure. Ouais. Et le voisin du dessus, qui est un immigré, commence à se plaindre et se fait insulter
par
Miu Miu. Ouais. Et donc, quand il descend frapper à la porte, Bernard Ménez le reçoit et l'insulte lui aussi de cette façon, en associant clairement l'immigré maghrébin à la crise pétrolière.
Voilà, donc là c'est vrai qu'on a une figure de l'arabe.
Notre figure de l'arabe, on associe clairement le maghrébin au mania du pétrole. Et puis il faut rappeler qu'à cette période, là on est en 74, mais pourquoi c'est intéressant d'entrer par la porte du stéréotype de l'arabe ? Parce qu'en 70 et en 74, on a deux sondages de l'Institut National Démographique, l'INED. Et dans ces deux sondages qui sont faits sur la considération portée aux migrants dans la société française. Dans ces sondages, on se rend compte que qui est le plus mal aimé des mal aimés, qui est le plus mal aimé des étrangers dans la société française, c'est le maghrébin, qui est en dernière position. Voilà, donc l'arabe, c'est vraiment le déclassé de la société, c'est le mal aimé parmi les mal aimés. Et on va tirer cette représentation-là jusqu'à 82 avec un film comme Pétrole, exemple intéressant, un film comme L'émir préfère les blondes. Voilà, le titre est assez drôle et il est révélateur de tout cela. Et puis aussi, toute cette vague de comédies que j'appelle des pantalonnades, ces pantalonnades d'Aldo Maccione qui va tourner Plus beau que moi tu meurs, qui va tourner C'est pas moi c'est lui au Maghreb. Alors des films avec Pierre Richard notamment où on va se moquer du maghrébin. Ces pantalonnades touristiques tournées dans des hôtels aseptisés au bord de mer. dans lequel le maghrébin n'est qu'un décorum, et le maghrébin, eh ben, on va le moquer. Hein, on va littéralement se moquer de lui. Et cette façon de se moquer de lui, elle remporte un véritable succès. Là aussi, les films d'Aldo Mathion, c'est souvent plus de 4 millions d'entrées en salle. Il faut se rendre compte de l'impact public de ces films. Des films rediffusés à la télévision. Et surtout, ces films, ils participent à l'esprit du temps. Parce que c'est quoi l'esprit du temps? C'est quoi la politique française vis-à-vis de l'immigration à cette période-là? À la fin des années 70, c'est la politique du retour, c'est la politique du million de l'immigré sous la présidence de Giscard d'Estaing, avec le secrétaire d'État Stoléru, qui propose cette prime de 10 000 francs pour que les immigrés rentrent chez eux. Et donc, on voit bien que le cinéma participe à cet esprit du temps. On voit bien que, pour l'opinion publique française, la présence des immigrés maghrébins, elle est éphémère. On peut rigoler d'eux, on peut se moquer d'eux parce qu'ils vont partir. Et ça va changer en 82 avec une cassure assez nette.
Mais justement, juste un petit détour, parce que tu évoques la prime de 10 000 francs de Stoléru.
Oui.
Y a un film qui a pris ça comme propos, qui est « Prends 10 000 balles et casse-toi », et qui est un peu... Enfin, est-ce que tu le considères comme un ovni dans cette...
Clairement un ovni, et alors un film dont le titre est inspiré du film de Woody Allen « Prends l'oseille et tire-toi ». Il faut le rappeler. Et donc c'est Mahmoud Zemouri qui est un restaurateur, donc là aussi un autodidacte comme Ali Ghanem. Hein, on voit bien que c'est des films autoproduits. Et ce film-là, c'est une comédie. C'est ce qui change radicalement avec les films immigrés misérabilistes, avec ces drames à la fin desquels l'immigré meurt constamment. Là, au contraire, c'est une comédie sur le retour aux origines, sur le retour au bled. Et c'est un film qui rencontre un premier succès, un peu plus de 40 000 entrées, ce qui est énorme pour un film autoproduit comme ça. Et puis un film qui remporte des prix, le prix au Festival Comique de Champs-Rousse, par exemple. Donc on commence à considérer artistiquement, on a aussi les premiers traits d'un possible immigré maghrébin comme artiste.
Et puis sans vouloir aller trop vite, moi je trouve quand même qu'il est assez visionnaire ce film, puisqu'il nous parle déjà des enfants d'immigrés, des Français, et du décalage qu'ils ressentent.
C'est le second film, effectivement. C'est le second film à mettre en scène cette seconde génération. Il y en avait un premier qui s'appelle Voyage en capitale, qui est un peu plus confidentiel à la fin des années 70, où on voit déjà le personnage d'une beurette, Jamila, qui refuse de rentrer au bled, justement, pour rester en France, parce qu'elle s'y sent chez elle. Et là aussi, on va voir, avec Prends 10 000 balles et casse-toi, c'est le décalage de mœurs entre Fifi Travolta, le surnom du fils de Mahmoud Zemouri, qui interprète le rôle du père. Il rentre à Boufarik, ce village du sud algérien, où effectivement, c'est ce qu'il dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de mob, on va peut-être l'entendre tout à l'heure. Donc, on ne l'entendra pas, mais ce n'est pas grave. C'est un film que je vous invite à voir, parce que c'est un film très drôle,
ouais.
Et que c'est la première vraie comédie. Et puis surtout, c'est un film de transition entre ce qu'on va appeler le cinéma beurre et ce que furent les films immigrés.
Mmh. Et donc, alors, qu'est-ce qui marque la rupture en 82, dans les années 80
82, la gauche arrive au pouvoir. Pourtant, rupture forte dans le genre des films qu'on nous propose. C'est là que ma méthodologie intervient. Quand je voulais repérer des schémas narratifs récurrents, qu'est-ce que je repère en 82? Je repère que c'est les films policiers qui vont se tailler la part du gâteau dans le cinéma français. En 82, il y a un film qui s'appelle La Balance. C'est un film qui est tourné par un cinéaste américain, Bob Swaim, qui est anthropologue de formation et qui nous propose une plongée au cœur de Belleville au sein d'une brigade territoriale qui va s'occuper de l'indélinquance maghrébine, puisque à Belleville, toutes les prostituées sont maghrébines. À Belleville, tous les trafiquants de drogue sont maghrébins. Et donc, en tout cas dans les films. Mmh. Et donc, ce film est un véritable carton, c'est un carton inattendu qui renouvelle les codes du polar à la française, qui va incruster le polar à la française dans les quartiers immigrés. Et ce film, il réalise 4,5 millions d'entrées en salle, il reçoit 4 Oscars à la cérémonie des Oscars en 83, dont celui du meilleur film, et il marque clairement donc la césure, puisque les producteurs se rendent compte que si on met des policiers blancs face à des truands basanés, on va gagner de l'argent. Ainsi, en 5 ans de production cinématographique française, on peut déceler une cinquantaine de longs-métrages au scénario récurrent qui oppose des immigrés hors la loi à des justiciers blancs qui vont souvent devoir rétablir cette loi hors des cadres légaux. Exemple, Ciao Pantin, avec Coluche, Lambert, qui rétablit la loi, qui est un ancien flic. Ciao Pantin, succès au box-office. Ciao Pantin, 8 Césars. C'est le film le plus récompensé en une seule cérémonie.
Avant qu'on détaille un peu plus Ciao Pantin, moi j'ai une question sur Ciao Pantin, mais on pourrait entendre tout de suite un petit extrait de La Balance, justement.
Dis donc, Asta, une plainte de M. Mohamed Gherbi a été déposée à l'IGF. Il prétend que vous l'avez insulté, frappé et dépouillé.
Mais patron, c'est un julot, un trafiquant de drogue.
Casta, la guerre d'Algérie est finie.
Oui, on a perdu Alger, mais on perdra pas Belleville.
Voilà. On voit bien le ton. Hein,
saisissant.
Oui. Bon, c'est les flics hein, qui parlent.
Et juste avant ça, on venait de jeter le dealer Jerby dans une poubelle.
Voilà. Ouais. C'est justement c'est lui qui a déposé la plainte. Quoi. Mais on remarque, petite parenthèse, hein, oui. On remarque d'ailleurs avec même l'extrait de Dupont-Lajoie que le comportement des policiers n'a pas trop changé. mais parenthèse fermée.
L'identité, en revanche, des policiers va changer. On le verra tout à l'heure.
Donc, tu parlais de Ciao Pantin. Alors, Ciao Pantin, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même le personnage Anconina.
Anconina, effectivement, qui incarne un personnage qui émerge à cette période. Hein. Je vais rappeler les rôles de Farid Chopel, le rôle de Sophie Marceau. Peut-être que je donnerai l'exemple tout à l'heure. Mais dans ce film-là, Anconina, c'est un personnage qui se décrit lui-même comme mi-juif, mi-arabe. Et le côté arabe, et là, c'est son côté délinquant. C'est le mauvais côté d'Anconina dans le film. On sent déjà que ça pose problème, mais néanmoins, on a un indice là sur les identités qui se fissurent. Hein, comme l'arabe est un peu moins arabe, l'arabe change d'identité, se francise un tout petit peu, et à cette période-là, on sent les identités qui se fissurent. Je peux rebondir sur l'exemple de Sophie Marceau dans le film Police de Piala, parce que ce qui est étonnant aussi, c'est que cette vague policière, même le cinéma d'auteur va la récupérer. C'est ce qui marque sa force. C'est le cinéma d'auteur qui va la récupérer. Et aussi, une petite aparté, elle correspond à l'esprit du temps. Parce que qu'est-ce qui se passe au début des années 80 en France? Les premiers succès électoraux du Front National. Donc le cinéma français participe à cette crispation autour du problème immigré. Le politique se crispe et le cinéma participe à cet imaginaire pour l'opinion publique française. C'est ce qui est intéressant. Alors l'exemple de Sophie Marceau, j'y reviens. Dans le film Police, on a affaire à un gang tunisien qui deal de l'héroïne dans Paris, et voilà, la fiancée du leader de ce groupe de dealers, c'est Sophie Marceau, et elle s'appelle Noria. Alors là, tous les journalistes vont se poser la question, mais pourquoi Noria? Pourquoi Noria? Est-ce qu'elle est beurre? Est-ce qu'elle est pas beurre? On le sait pas vraiment. Donc c'est un personnage très ambigu, et là aussi, on sent que les identités se fissurent. Elle a un prénom maghrébin, elle a un petit ami maghrébin, mais on ne sait pas vraiment si elle est maghrébine. Et voilà, c'est la mise en jeu des identités ici commence à glisser.
Et donc là, on est en plein dans les années 80, hein, c'est ça?
Oui, 85 police.
85 police. Et qu'est-ce qui émerge? Donc on voit qu'il y a cette figure du délinquant ou des identités un peu floues qui émergent. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Alors, justement, face à cette crispation hein, que caractérise le cinéma policier, face à cette crispation qui est aussi une crispation politique, il y a le cinéma beurre. Le cinéma qu'on a appelé cinéma beurre. Alors, c'est une expression journalistique que je reprends. C'est des critiques qui ont appelé ça le cinéma beurre. On peut parler de cinéma beurre peut-être parce que c'est un cinéma fait par les Français d'origine maghrébine, sur les Français d'origine maghrébine, et peut-être en partie, hélas, pour les Français d'origine maghrébine, parce qu'on va voir que le public français s'y intéresse très peu. Mais le cinéma beurre, il émerge parce qu'en 83, il y a la marche contre le racisme et pour l'égalité, qu'on rebaptise Marche des Beurs. Et dans le sillage de cette marche, les pouvoirs publics, notamment le Centre National de la Cinématographie, le CNC, décident de débloquer des fonds pour les cinéastes français d'origine maghrébine. Donc en 85, on a trois films qui sortent. On a Le Thé à l'amande d'Abdelkrim Bahloul. On a Bâton Rouge de Rachid Bouchareb, le premier film de Bouchareb. Et on a... évidemment, le choc cinématographique de l'année, c'est le Théorème d'Archimède de Mehdi Sharef. Mehdi Sharef qui adapte ici son roman à l'écran et son film est produit par Michel Regavras, la femme de Costa Gravas. Voilà, donc Mehdi Sharef, ici, va apparaître comme un ovni dans le cinéma français parce que c'est son premier film, parce que ça rencontre un succès assez intéressant. Il fait plus de 500 000 entrées nationales, ce qui est un bon score pour un premier film. Et puis, il marque l'opinion publique, ce film-là. Il cristallise certains thèmes, mais là, c'est un film très éphémère, un peu à l'image de toute cette mode beurre des années 80 qui ne va pas perdurer.
Hein, qui est une mode, quoi.
Qui est effectivement une mode. On peut renvoyer à un ouvrage des sociologues Boubaker et Badgay sur la mode beurre. Et effectivement, le cinéma, il vient s'inscrire là-dedans.
Qu'est-ce qui caractérise le cinéma beurre, outre le fait qu'il est produit, fait par des réalisateurs d'origine maghrébine? Quelle est l'image de l'arabe, avec les guillemets, dans ce cinéma?
Alors justement, on approfondit un peu l'identité, on approfondit un peu dans le cinéma le mal-être de ces personnages. Le mal-être, c'est le mal-être de celui de Majid, le personnage principal dans le théorème d'Archimède, interprété par Kader Boukhadev. Et ce malaise-là, on le sent durant 10 ans, jusqu'à 95 à peu près. Elle a sorti du film Bye Bye de Karim Dridi, qui se passe à Marseille, avec Sami Bouajila. Et le petit frère de Sami Bouajila, il résume bien la situation finalement, parce qu'il écrit un rap qu'il va chanter à son frère et lui dit... Ne m'appelle pas beurre, car ce mot maker, arabe, est le sens de ce mot. Donc là aussi, on sent que la minorité commence à s'affirmer comme une minorité arabe au sein de la France et refuse cette étiquette beurre un petit peu réductrice. Voilà ce qui caractérise, à mon sens, le cinéma beurre, c'est ses problèmes d'identité. Un peu comme dans le cinéma policier, on voit que les identités commencent à s'effriter. Et bien le cinéma beurre, lui aussi, met en jeu cette identité. Est-ce qu'on est arabe? Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est beurre? C'est le questionnement. Hein, c'est le... Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma beurre dans le cinéma français, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des portes pour les cinéastes et pour les acteurs d'origine maghrébine. Alors certes, ceux qui arrivent en 85, Mehdi Sharef le cinéaste, Kader Boukhadev l'acteur, eh ben, ils vont pas réussir à percer dans le milieu du cinéma français parce que Mehdi Sharef il va pas vraiment connaître de succès similaire à celui-là. Il va continuer à réaliser des films. Marilyn avec Muriel Robin, qui a un succès honorable. Cartouche gauloise sur la guerre d'Algérie, qui a un petit succès. Qui est un film qui a plutôt mal marché, mais qui est normalement une bonne couverture médiatique.
Mais qui sont des films très récents par rapport
à... Mais ça nous montre que finalement, il y a... Le cinéma beurre a peut-être très rapidement lassé les spectateurs.
Hein. Justement, pourquoi est-ce qu'il lasse? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéma éphémère?
Parce que, à mon sens, mon explication, c'est que le sujet de l'immigration, cette période-là, n'intéresse pas encore les spectateurs. Contrairement à aujourd'hui, avec la multiplication des films de Kechiche, d'Amers Aymesh, on en parlera tout à l'heure, où l'immigration est devenue un sujet central des scénarios, à cette époque-là, l'immigration intéresse très peu les spectateurs.
Oui, alors, mais peut-être que pour clore un peu cette période, alors tu l'as fait terminer dans,
en 95, justement, 1995. Avec le déclin du cinéma beurre qui est caractérisé par Bye Bye, qui pourtant est acclamé à Cannes. Bye Bye est acclamé par la presse, un excellent film de Karim Dridi. Qui pourtant, il ne marche pas, il fait 150 000 entrées, je crois, nationales, ce qui est très faible.
C'est un peu un film qui révèle aussi Sami Bouajila qu'on va retrouver.
Alors effectivement, là c'est aussi un phénomène intéressant, c'est que je vous l'ai dit, Kader Boukhadev, l'acteur du théorème d'Archimède, c'est un très jeune acteur en 85, mais il ne perce absolument pas dans le cinéma français. En revanche, Bouajila, en 95, il émerge, il a déjà quelques films derrière lui, et il va connaître une carrière pérenne, à l'image de Roche Dizem, qui lui aussi connaît ses premiers rôles au début des années 90. Donc on a aussi un moment où les acteurs maghrébins vont commencer à être considérés dans le paysage cinématographique français.
Mais avant de passer à cette troisième période, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'Union sacrée, qui est un peu, peut-être il est un peu à part dans cette période 82-95, puisque justement c'est un des rares films où réémerge une figure de l'islam.
De l'islam radical. Et alors c'est un film qui révèle les fantasmes de l'époque avec la peur d'une contamination. La peur que les immigrés maghrébins, parce qu'il y a une montée du chômage, alors ces immigrés maghrébins désœuvrés, les premiers frappés par le chômage, c'est une réalité, parce que c'est les ouvriers les moins qualifiés, que ces immigrés maghrébins délaissés par la société ne succombent aux sirènes de l'islamisme. Et alors là, on a affaire à un film qui met l'islam en scène de façon particulièrement barbare. Un islam qui, Arcadie reconstitue l'attentat de la rue des Rosiers, à peu près, parce qu'on voit le magasin de la mère de Patrick Bruel, qui joue le policier Simon Atlan, qui est mitraillé sans aucune raison. La seule raison évoquée par le film, c'est le personnage du conseiller culturel, qui est un peu le leader de cette mouvance islamiste. Il faut rappeler que ce sont des islamistes qui importent une drogue fatale dès la première prise, qu'ils distribuent gratuitement dans les écoles françaises. On associe donc clairement les immigrés au trafic de drogue.
C'est encore pire que les délires de l'anthrax en 2001, quand même.
Exactement, mais on peut faire un parallèle. Et donc, ce mitraillage de la rue des Rosiers, on l'explique par une seule réplique. Je suis très en colère. Voilà, c'est la seule justification qu'on apporte à ce mitraillage-là. Donc, Et puis, on peut aussi expliquer, on peut parler de ce que dit Alexandre Arcadie au sujet du personnage de Karim Hamida. Karim Hamida, c'est un policier harki qui est donc le compagnon de Simon Atlan, interprété par Patrick Bruel. Et Alexandre Arcadie va dire très simplement, écoutez, il n'y avait pas de bon acteur maghrébin en France à cette période-là, donc je ne pouvais pas mettre d'acteur maghrébin dans un premier rôle, c'était impossible, voyons. Alors qu'il a très bien trouvé Saïd Amadis pour interpréter le conseiller culturel islamiste, et à Mugraya pour interpréter le dealer. Mm. Voilà. Donc, il y a une répartition des rôles qui peut être sujette à critique.
Oui, carrément. Mais bon, c'est Alexandre Arcadie, on ne va pas s'étendre. C'est pas non plus ce qu'on fait de mieux dans le cinéma. C'est mon avis, en tout cas.
Et par ailleurs, c'est un film aussi qui montre que le modèle policier s'essouffle. C'est un film qui n'a pas un gros succès en salle. Et puis, c'est un film où on peut le mettre en perspective avec la chanson de Véronique Sanson, voilà, qui sort à la même époque. Hein. Mm. C'est l'époque des versets sataniques aussi. Donc voilà, on est dans toute cette...
Mais ça sort en quelle année
C'est en 89, l'Union Sacrée.
Ah oui, donc c'est même avant la guerre du Golfe, en fait.
Oui, oui. Oui. Et puis, donc, on est dans cette période de la fatwa contre Salman Rushdie, mm. la chanson de Véronique Sanson, Allah, qui est un peu provocatrice quand même. Donc voilà, on est dans une période où on a peur de la contamination islamiste auprès des immigrés maghrébins mm. désœuvrés. Et d'ailleurs, il y a une scène étonnante où Patrick Bruel, donc Simon Atlan dans le film, observe le centre culturel islamiste. Il observe les hommes en train de prier, les hommes avec des kalachnikovs, etc., donc armés. Et il dit « Laisse-moi balancer une grenade là-dedans
!» Bah oui.
Voyons. Et le film, d'ailleurs, a une morale assez discutable, puisque Richard Berry, qui joue le flic plus posé, Karim Hamida, donc, qui est un musulman, certes, mais qui est un musulman savant, parce qu'il a des lunettes, parce qu'il se promène avec des livres sous le bras. Et donc, à la fin du film... Patrick Bruel, Simon Atlan pensent que le conseil culturel va pouvoir rentrer dans un pays qu'on ne connaît pas, mais néanmoins le drapeau de l'ambassade est clairement identifié à l'Iran. Et donc on pense qu'on le laisse partir, mais qu'est-ce qui se passe quand la voiture part ? Quand la voiture passe devant la Tour Eiffel, la voiture qui transporte donc cet islamiste supposément iranien, et bien la voiture explose. Karim Hamida a piégé la voiture et fait exploser le terroriste.
Incorrigible. Bon, donc, ok. Alors, on passe donc ensuite, à partir de 1995 et jusqu'à aujourd'hui, hein, oui. j'imagine, à une autre période où là...
Troisième période, en
on
effet.
On va changer de représentation. Bah.
Avec là aussi un glissement de genre. Première période, c'est le temps de l'imprégnation, on l'a dit. C'est un temps où on commence à représenter l'immigré dans l'espace public et dans le cinéma français. Deuxième temps, c'est un temps de la fixation... où, d'une part, le cinéma français se crispe, avec les films policiers, et de l'autre côté, il s'ouvre avec le cinéma beurre. En 1995, le glissement, c'est quoi ? C'est le cinéma de banlieue. Le cinéma de banlieue, c'est la haine, c'est le cinéma de la fracture sociale, c'est la haine qui connaît un véritable succès public, avec une distribution pluriethnique, et un film dans lequel l'arabe, l'arabe, c'est plus le seul immigré, c'est plus l'immigré délinquant, au contraire, c'est un immigré parmi d'autres, avec un juif, avec un noir, et donc il partage les soucis de toute une génération de jeunes gens, et donc c'est plus seulement l'étranger nocif. L'arabe se fond un peu dans ce moule de la banlieue.
Mais justement, est-ce qu'il y a une différence entre l'arabe immigré et l'arabe enfant d'immigré, ou est-ce que tout est dans le même sac
Tout est dans le même sac, ouais. Bien souvent. Oui, il n'y a pas de distinguo, c'est là où aussi le terme arabe est intéressant à utiliser.
Mmh. Comment émerge cette nouvelle période, avec quel type de film ?
Alors, ces banlieues films, ils sont intéressants pourquoi ? Ils sont intéressants parce qu'ils apportent un renouvellement esthétique. Ils revendiquent des influences américaines. Bien évidemment, Kassovitz parle de Spike Lee, il parle de Scorsese pour sa mise en scène. Donc on a des mouvements de caméra, on a l'omniprésence de la musique. Je parle de Kassovitz, mais on peut parler aussi de Jean-François Richer, on peut parler de Rai, de Thomas Gilou. Voilà, il y a toute cette vague de banlieue film qui émerge à cette période-là. Ça devient une mode, hein, et puis on peut aller jusqu'au Ciel, les oiseaux et ta mère avec Jamel Debbouze, qui là est déjà dans la récupération économique de ce cinéma de banlieue. J'y reviendrai tout de suite après le développement de cette idée. Donc, film de banlieue, on l'a dit, mise en scène renouvelée, influence américaine, scénario innovant avec donc la distribution pluriethnique, et puis voilà, des succès en salle inattendus et des cinéastes comme Richer qui sont des cinéastes autoproduits, donc ou produits hors des circuits traditionnels de financement du cinéma français, et ça met la puce à l'oreille des producteurs.
Eh bien oui, justement, parce que la puce à l'oreille des producteurs, ça veut dire gling, 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 attention, filon.
Ça veut dire qu'il y a un filon à exploiter, ça veut dire qu'il y a des images qui vont nous faire gagner de l'argent. Pourquoi ces images, elles vont nous faire gagner de l'argent ? Eh bien, en fait, l'explication, elle est plutôt simple. Parce qu'en 93, qu'est-ce qui se passe dans le système d'exploitation en France, dans l'économie du cinéma français ? C'est la construction des multiplexes. Donc, les multiplexes, c'est des grandes salles de cinéma qui se construisent où ? À la périphérie des grands centres urbains. Donc les multiplexes, ils vont attirer qui ? Un public d'origine immigrée. Donc on va revoir la distribution des films français en fonction de ce nouveau public. Et alors là, on arrive avec un film majeur, avec une saga majeure. Donc, j'ai parlé de, du Ciel des oiseaux de ta mère, c'est plus d'un million d'entrées. Gros succès, hein. Là aussi, distribution plus ethnique. Mm. Hein, Jamel Debbouze, donc il joue le petit maghrébin. On a aussi un personnage noir dans le film. Et puis, un petit français de banlieue. Avec ces films-là, on a surtout l'émergence du phénomène taxi. Taxi, 1998, mai 1998, Taxi, le premier, succès inattendu, 6,5 millions d'entrées, mais c'est juste le début d'une saga de 4 épisodes qui réunit 28 millions de spectateurs dans les salles françaises, c'est-à-dire que c'est la saga la plus vue du cinéma français. Et Taxi, c'est surtout Saïd Nasseri, qui s'appelle Sami Nasseri, c'est son nom d'acteur, qui s'appelle Daniel Morales dans le film. On voit la francisation, le changement d'identité progressive, là. Et donc, Taxi, c'est la cristallisation du contre-stéréotype. On était dans le stéréotype, clairement, au début des années 80. Ici, on va passer au contre-stéréotype. L'immigré n'est plus le cancer de la nation, il en est le sauveur. Pourquoi il en est le sauveur ? Parce qu'il rapporte de l'argent.
Mmh. Voilà. Mais de quelle manière, justement, on rentre dans un contre-stéréotype ? Enfin, c'est intéressant, la figure de Nasseri dans Taxi, oui. Justement, qui reste flou. Enfin, justement, il s'appelle Daniel Morales.
Il s'appelle Daniel Morales, mais justement, on ne connaît pas vraiment ses origines. À aucun moment, on décline son identité, on décline son passé. C'est un personnage un peu sans mémoire. Hein. C'est un personnage qui a des codes identitaires très précis. Par exemple, Taxi 2, c'est l'apogée pour moi des codes identitaires. Pourquoi ? Parce que Taxi 2, c'est un film qui sort en 2000, qui sort après la victoire de la France à la Coupe du Monde, qui sort après la victoire de la France au championnat d'Europe de football. Et donc, c'est un film dans lequel Sami Nasseri porte quoi ? Le maillot de Zinedine Zidane. Donc, Daniel Morales est clairement identifié à Zidane dans Taxi 2. Et quand il va déjeuner chez le père militaire de sa petite amie, il va revêtir une chemise par-dessus ce maillot de football floqué du nom de Zidane, un peu pour gommer son étrangeté. Il essaye de gommer son étrangeté, mais il n'y arrive pas vraiment, parce que de quoi lui parle le père de sa petite amie quand il arrive à table ? De la guerre d'Algérie. Et pourquoi parler à Daniel Morales de la guerre d'Algérie aussi longtemps ? On peut se poser la question, là aussi. Donc on sent que le film est clairement calibré, le scénario est calibré, pour faire de Daniel Morales, un chauffeur de taxi qui roule beaucoup trop vite, qui garde un côté petit délinquant, qui est un ancien livreur de pizza. Hein. Voilà, ce taxi qui roule beaucoup trop vite, eh ben, il va devenir, mine de rien, sauveur de la France, un peu comme Zidane qui fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France de football.
Mais justement, on pourrait se dire, avec l'exemple que tu as donné dans la scène où il rencontre le père de sa petite amie, on pourrait se dire, bon, bah, c'est le mec, il est militaire, donc forcément, il va parler d'une guerre qu'il a faite. La dernière, c'était la guerre d'Algérie. Bon, on pourrait se dire ça. Mais en fait, non. Je voudrais juste qu'on passe un autre extrait où, effectivement, d'autres personnages ramènent toujours Morales à une autre identité qui n'est pas vraiment dite, mais qui est présente, quoi.
Bon, prenez à droite, là, et longez le port.
Avec plaisir, chef.
Et il a l'air bien élevé.
Affirmatif. Courtois aussi.
Oula ! Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. C'est comme au souk, ça. Un grand sourire et hop, il vous tire la caisse. Mais pas d'inquiétude, je l'ai à l'œil, le Lascar.
Donc c'est bien de Daniel Morales qu'il parle.
Effectivement,
hein.
Il parle de Daniel Morales qui a pourtant mangé un sandwich au jambon dans le premier épisode. Donc là, on est un peu perdu. On se dit, qu'est-ce qui se passe, Daniel Morales ? Et puis, c'est voilà, mais au début du film, on l'a déjà identifié à Zizou, encore une fois, à Zidane. Il se retrouve à devoir emmener une femme enceinte dans un hôpital. Il doit doubler une voiture de rallye, puisqu'il se retrouve sur une route sur laquelle il y a un rallye. Et il va doubler un pilote avec son maillot de foot. Et le commentateur du rallye va dire « Oh, mais un taxi arrive, c'est un taxi. Il porte le numéro 10, 10 comme Zidane. » Donc Daniel Morales, c'est clairement Zinedine Zidane dans cette saga Taxi, qui est, donc, je le répète, la saga la plus vue du cinéma français. Mais Taxi développe un modèle économique qu'on va retrouver dans nombre de films. Et Taxi, simplement pour donner quelques chiffres qui peuvent permettre d'en mesurer l'impact dans l'opinion française, dans l'imaginaire français. Donc, outre les 28 millions d'entrées en salle, outre le fait que Daniel Morales soit le personnage le plus vu du cinéma français, c'est quand même ultra important ce point de vue. Taxi, à sa première diffusion télévisée, c'est 45% de part de marché. Taxi, c'est le record du taux d'enregistrement magnétoscope à la télévision. Taxi 2, c'est un record de vente pour un film français en DVD. Donc si on accumule ces différentes sources, les rediffusions, le succès en salle, on se rend compte du succès de ce modèle économique et de ce passage progressif au contre-stéréotype, de cette identification d'un immigré maghrébin qu'on transforme en personnage français, qui n'est plus le cancer de la nation, mais qui en devient le sauveur.
Bon, mais là, on est plutôt dans le cinéma commercial, quand même.
Clairement.
Ouais, très clairement. Mais est-ce que le cinéma d'auteur s'engouffre dans les mêmes voies ou pas ?
Effectivement, le cinéma d'auteur va venir complètement en opposition ce film-là, à ce genre de film, parce qu'on pourrait développer une longue liste de films de la sorte, où notamment, on peut peut-être revenir là-dessus pour parler de cette marchandisation des origines avant de s'attarder sur le cinéma d'auteur. Constater, regarder les films dans lesquels les Maghrébins jouent des premiers rôles ou jouent des rôles de policiers, de contre-stéréotypes, vous verrez que face à eux, on met très souvent des personnages, des méchants asiatiques. Pourquoi ? Probablement parce que la communauté asiatique est moins cinéphile que les autres et qu'on ne perd pas d'entrée en salle si on met des méchants asiatiques face à des gentils Maghrébins. Ça paraît un peu simpliste, explicité comme ça, mais pourtant, le succès de Taxi, dans Taxi 2, Taxi 3, ce sont des opposants chinois et japonais face à Daniel Morales, ça explicite bien ce modèle. Et surtout Taxi, pour faire le lien avec le cinéma d'auteur, Taxi, c'est un personnage dont l'objectif est de réaliser des courses impossibles grâce à son bolide. Taxi, c'est l'accélération de l'image. Taxi, c'est l'accélération du passage du stéréotype contre stéréotype. C'est le renversement d'un stéréotype séculaire de l'arabe en un contre-stéréotype. Donc pour l'historien que je suis, là, il y avait un véritable défi à comprendre ce qui s'était passé. Et on voit bien que le système économique transforme notre rapport aux images, transforme nos identités, bouleverse les identités et bouleverse un stéréotype qui s'est sédimenté des siècles durant. Le stéréotype de l'arabe n'existe plus, même si on donne quand même à Daniel Morales quelques petits éléments pour l'identifier aux délinquants d'origine maghrébine. Il y a ce retournement hyper rapide qui s'incarne même, cette idéologie-là, elle s'incarne dans le personnage du film qui doit foncer à toute allure. Donc ce rapport au temps historique, au temps de l'image, c'est un rapport très intéressant pour l'historien. Et vous le dites bien, le cinéma d'auteur, c'est quoi ? Le cinéma d'auteur des auteurs français d'origine maghrébine, c'est un cinéma qui, lui, au contraire, réhabilite la mémoire des immigrés. C'est un cinéma qui prend en compte l'histoire, qui prend en compte l'identité des immigrés, qui va effacer le terme beurre pour revendiquer une identité de français arabe, comme nous le dit Kechiche. Donc voilà, face à ce cinéma commercial, le cinéma d'auteur, lui, il oppose la mémoire, il réhabilite la mémoire. Prochainement sur les écrans, qu'est-ce qu'on aura ? Le prochain film de Roche Dizem qui parle de l'affaire Omar Radad. Réhabilitation là aussi. Mmh.
Mais justement, pour aller un peu plus aussi dans la question, disons, artistique aussi, on a cité Kechiche, on a cité Rabah Meurzaïmèche, on a cité Karim Dridi. Je ne sais pas si d'ailleurs Karim Dridi, il a une carrière qui colle vraiment avec ce parcours-là qu'on vient de décrire, parce qu'il a... C'est vrai que Bye Bye... qui était de la période précédente, effectivement, parle de jeunes Français d'origine immigrée, mais il n'a pas fait que des films là-dessus. Non,
il
n'a
pas fait que des films là-dessus, mais Ramsa nous parle là, quand même d'identité, son film qui sort en 2 minutes, et puis ensuite, c'est vrai qu'il réalise une grande fresque désertique, Le Dernier Vol, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, qui est un gros échec au box-office. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il sort la même semaine qu'Avatar, et aussi parce que le film a été assez mal reçu par la critique.
Mais donc, ces réalisateurs qu'on vient de citer et d'autres, est-ce qu'ils ne sont pas aussi, d'une certaine manière, évidemment dans la catégorie cinéma d'auteur, est-ce qu'ils ne viennent pas aussi renouveler carrément le cinéma français dans son entier ?
Alors complètement, on a cité dans la première période le fait que les cinéastes d'origine immigrée étaient victimes d'une complète déconsidération artistique. On a vu le caractère un peu éphémère de la reconnaissance de Mehdi Sharef. Et on va voir aujourd'hui que Kechiche, c'est quoi ? Kechiche, c'est le leader du cinéma français. Les Cahiers du cinéma, la revue la plus considérée d'un point de vue esthétique et critique, elle fait un classement des 10 meilleurs films de la dernière décennie. Il y a un seul film français dans ces films-là, c'est La Graine et le Mulet. Kechiche, avec L'Esquive et avec La Graine et le Mulet, c'est 8 Césars, dont 2 fois le César du meilleur film. Donc Kechiche, clairement, réhabilite la mémoire des migrants et surtout renouvelle l'esthétique du cinéma français, il renouvelle la façon de faire du cinéma français, il devient le porte-drapeau du cinéma français et la critique pour Kechiche, eh ben, le place clairement dans une tradition cinématographique à la française. Le cinéma de Kechiche, c'est le cinéma de Jean Renoir, c'est le cinéma de Maurice Pialat, c'est le cinéma de Pagnol. Donc voilà, Kechiche, c'est aussi la perpétuation d'une tradition d'un cinéma réaliste à la française.
Alors, on a un peu, j'espère, fait le tour de ces périodes que tu as dégagées suite à ton travail. Peut-être pour ouvrir, pour conclure, je ne sais pas comment tu vois un petit peu, comment tu pressens, enfin sans aller jusqu'à prédire, comment tu pressens justement les prochains films à venir dans ce cadre-là. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir toujours parler de la figure de l'arabe ?
Alors effectivement, est-ce qu'on peut parler encore de l'arabe ? C'est une des questions que je pose dans ma thèse, qui d'ailleurs sortira l'année prochaine en livre, je glisse au passage. Effectivement, le stéréotype s'est tellement effrité, est-ce que j'ai encore affaire aux arabes ? C'est la question juste qui pourrait conclure ce propos. Malgré tout, on peut dépasser ce constat et on peut constater qu'avec toute cette série d'indicateurs, le cinéma français, il nous renseigne sur quoi ? Il nous renseigne que l'immigration, elle n'est pas forcément choisie, elle n'est pas forcément subie. L'immigration, elle peut être réussie aussi. Hein. C'est clairement ce que nous montrent les cinéastes d'origine maghrébine. Et puis, on peut reprendre... Il y a une phrase de Jacques Berck que j'aime beaucoup, qui est assez connue. Donc, Jacques Berck, ce savant orientaliste français, qui dit qu'il faut sans cesse être sur la voie d'échanges culturels et sur la voie d'Andalousie sans cesse à recommencer. Et on voit bien que ce cinéma français fait par des immigrés maghrébins nous met clairement sur cette voie d'Andalousie à recommencer.
C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu, parce que c'est joli, mais...
L'Andalousie, un peu cette tache d'or des échanges culturels entre les religions, entre les civilisations, cette tache d'or de la pensée avec Ibn Rushd, avec Ibn Sina, voilà, qui...
Averroès et Avicenne.
Non, c'est... Et donc voilà, pour moi, ces Andalousies, c'est ça.
C'est l'Andalousie musulmane.
C'est l'Andalousie musulmane. Je n'irai pas jusque-là pour le cinéma français, mais néanmoins, voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est ces échanges culturels, c'est ces influences réciproques, c'est le fait que les auteurs d'origine maghrébine s'inspirent des classiques du cinéma français pour faire leur cinéma. Et puis enfin... Voilà, je conclurai sur Jacques Berck. J'avais une autre idée que je suis hélas en train d'oublier.
Mais j'allais te reposer une autre question, justement, tu m'as fait penser. On ne va pas s'arrêter tout de suite. En discutant tout à l'heure avant l'émission, tu disais aussi que le sujet des migrations, en général, est un sujet qui est très, très présent dans le cinéma mondial aujourd'hui.
Effectivement, on se rend compte que toutes les cinématographies, aujourd'hui, sont des cinématographies dans lesquelles l'immigration est un sujet majeur. Et donc, on est dans une période contemporaine où non seulement on doit parler des flux d'images, parce que j'ai parlé brièvement des multiplexes, mais il faut aussi parler de la multiplication des sources d'accès à l'image, des supports de l'image. Donc, on est dans une période caractérisée, à mon sens, il y a un anthropologue qui s'appelle Arjun Appadurai qui a défini ça comme une période qui est caractérisée par à la fois un flux de migrants et un flux d'images. Et c'est ce double flux qu'il faut essayer d'analyser. Alors, effectivement, même dans le cinéma américain, on retrouve le sujet de l'immigration. À l'opposé, dans le cinéma mexicain, on retrouve aussi ce même sujet. Donc, on se rend compte que cinématographie du Nord et cinématographie du Sud dialoguent toutes les deux sur ce même sujet de l'immigration. On peut parler aussi de Fatih Akin en Allemagne, qui est un cinéaste majeur qu'on peut comparer à Kechiche en France, dans une certaine mesure. Donc, on voit que l'immigration renouvelle les cultures nationales et on voit que ces cinéastes qu'on a souvent laissés aux marges du cinéma français, et bien que ces marges du cinéma français, elles ont fini par en immerger le centre. Et qu'aujourd'hui, les immigrés maghrébins ou les descendants des immigrés maghrébins, c'est le moteur économique du cinéma français et c'est sa vitalité artistique. C'est peut-être les deux points essentiels qu'il faut retenir de ce sujet.
Ben, c'est bien, pour une fois, on finit sur une note optimiste.